La revue Continuité propose son numéro d'hiver, justement. Et Josiane Ouellet, rédactrice en chef de Continuité, nous parle en direct de la très belle région, la très belle ville de Québec. Bonjour, Josiane.
Bonjour, Madame Denis.
Ça me fait plaisir. Vous pouvez m'appeler Hélène.
Oui, bonjour Hélène.
Ça fait quelques fois.
Le plaisir est partagé.
Oui, alors merci. C'est donc un autre numéro, un contenu riche en informations patrimoniales, comme toujours, j'ai envie de dire. Donc, vous êtes penché sur un thème qui est cher à nous et qui fait partie de ce qu'on est. D'ailleurs, il y a un article qui s'intitule « Frissons identitaires, l'héritage de l'hiver forgé dans la glace ». Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce que vous explorez dans ce dossier, madame, ou Josiane plutôt?
Ça va dans les deux sens. Effectivement, l'hiver, c'est très lié à notre identité. C'est un trait culturel vraiment important ici au Québec. Alors, on a voulu explorer le patrimoine, l'héritage de l'hiver. Mm-hmm. Et on se rendait compte que, oui, évidemment, l'hiver a eu un impact sur notre façon de construire les bâtiments, donc ça se reflète dans notre patrimoine bâti, mais il y a aussi beaucoup de patrimoine vivant lié à l'hiver, des pratiques, des traditions qui se perpétuent à travers le temps, et c'est un peu ce qu'on a voulu explorer. En fait, l'idée de départ, c'est que on s'est dit, en fait, on remarquait en comité de rédaction en jasant que le patrimoine pouvait devenir une façon d'être un moyen d'apprécier l'hiver, pouvait nous aider à apprécier l'hiver de différentes façons. Le point de départ, c'est que on voyait qu'à l'île d'Orléans, à Saint-Jean, ils ont depuis quelques années, durant l'Avent, à chaque année, ils éclairent les bâtiments anciens, un bâtiment par jour avec les belles lanternes. Et le 24 décembre, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent, en fait. À chaque jour, il y a un nouveau bâtiment qui est éclairé et le 24 décembre, elle a tout le village est éclairé ici. Et ça reste comme ça pendant quelques jours. Donc, c'était vraiment, on se disait, avec cette initiative-là, c'est de la mise en valeur du patrimoine, mais en même temps, ça fait sortir les gens dehors. Là, c'est sûr que cette année, il ne pouvait pas y avoir autant d'activités sociales autour de ça que d'habitude. Mais
avant 20 heures.
Oui, même à ça, il ne peut pas avoir trop de rassemblements, alors que d'habitude, c'est ça faisait sortir les gens dehors, se rassembler. Ça crée vraiment de l'activité à un moment de l'année où il n'y en a pas vraiment au village. Alors, on s'est dit, oui, mais justement, là, le patrimoine nous aide à apprécier l'hiver, profiter de l'hiver, sortir dehors, aller se rencontrer. Alors, on s'est dit, il y a plein d'autres scénarios dans lesquels le patrimoine nous aide à apprécier l'hiver. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a voulu explorer, puis un peu ce qu'on nos choix sont allés dans le sens de mettre en valeur aussi par exemple des sports ou des loisirs qui sont très identitaires, très liés, très ancrés, là, soit dans notre histoire, dans notre identité. Alors, on a vraiment privilégié ceux-là, mais il y en aurait eu d'autres, là, tu sais, comme on a parlé de certes activités, mais il y en avait tellement, là.
Ah oui, il fallait faire des choix.
Mais
vraiment, je trouve que vous ratissez très largement, là. Vous parlez, ben là, vous êtes en train de parler de sport. Justement, à la une, il y a une photo spectaculaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo?
En fait, c'est ça, c'est la course de canot à glace devant Québec.
Et, qui a lieu dans le cadre du carnaval.
Oui, c'est ça exactement. Mais en fait, il y a un circuit de course de canot à glace. Hein. Il y en a plusieurs dans l'hiver. Ça donne que c'est celle de Québec. Et vraiment, le photographe Pierre Lahoude, que vous connaissez peut-être, qui est aussi spécialisé en photographie aérienne, c'était vraiment, à chaque année, suit l'équipe de David Blair, l'équipe de coureurs en canot à glace. Et là, cette année-là, c'était vraiment positionné à un endroit, le projet Lévis, où il savait qu'il y avait beaucoup de glace, que c'était une partie vraiment plus éprouvante là, de la course.
Alors,
vraiment pour capter l'effort et les coureurs dans l'action. Là. Alors, c'est vraiment ça. On a la glace et le canot et on a les coureurs. Et même pour l'anecdote, il y a eu des coureurs qui malheureusement Et on ne le voit pas parce qu'il s'est blessé durant cette course-là. Alors lui, il est couché dans le canot pendant que les quatre autres forcent pour finir la course. Alors voilà pour l'anecdote.
Le canot qui devient une civière.
Oui, exactement.
Et il y a des textes tout à fait passionnants, l'ABC de l'adaptation, où on apprend, on dit souvent à travers les articles qu'on peut lire dans la revue que, et c'est bien de faire le rappel, les peuples autochtones ont vraiment contribué à la survie des arrivants blancs sur leur territoire, par toutes sortes de façons. L'habillement en pelure d'oignon, ça viendrait d'eux.
Mm-hmm. Oui, effectivement, on trouvait vraiment important dans ce numéro-là de rappeler l'héritage autochtone lié à l'hiver. On disait on ne peut pas passer à côté, là, parce que vraiment, on a appris, les nouveaux arrivants, là, ils ont appris énormément des peuples autochtones pour justement survivre à l'hiver, puis s'adapter, puis être capable de se déplacer. On le voit dans le texte, entre autres, la fameuse raquette en babiche. Moi, j'étais surprise d'apprendre qu'il y avait vraiment différentes grosseurs, formes de raquettes. Il y en avait même pour imiter le bruit de pas, le bruit des pas d'orignal pour la chasse. Alors, on voit que les Autochtones étaient vraiment des spécialistes là, de ça et qu'ils ont transmis ces savoirs-là aux nouveaux arrivants. Alors,
les ponts de glace aussi qui viennent d'eux.
Oui, oui. Oh oui, c'est ça, il y a tellement
de choses. Oui, c'est vrai.
Vous disiez, il y a les vêtements, là, tu sais, c'est ça, l'idée aujourd'hui, les vêtements de sport où on peut enlever un bout, tu sais, justement en pelure d'oignon, mais aussi où on peut enlever une manche, ça vient de... eux autres en avaient déjà des vêtements comme ça à l'époque de la Nouvelle-France. Évidemment, ce que les intervenants qu'on a interviewés nous ont aussi parlé beaucoup des médicaments, des plantes, de la façon de se soigner. Évidemment, on a l'exemple de l'Aneda qui a permis à l'équipage de quartier de passer l'hiver, là. Mais il y a d'autres exemples aussi là, des connaissances médicinales et des plantes qui ont été transmises. Et même moi, je voyais évidemment, on pense à la raquette, mais aussi le toboggan, les traîneaux à chiens. Même dans le vocabulaire, il y a beaucoup de mots qui sont restés des mots liés à l'hiver qui sont d'origine autochtone.
Même les Atokas. Les Atokas est un mot Wanda.
Oui, les fameux Atokas. Donc, ouais. on parle des Atokas, on parle du repas, des repas de Noël. C'est beaucoup inspiré de la culture autochtone, là, le mélange des petits fruits avec la viande et tout ça. Alors, c'est assez surprenant. Puis, dans ce texte-là, on publie aussi un petit sous-texte là, de la directrice du musée Pointe-du-Buisson sur vraiment les traces archéologiques liées à l'hiver. Et ça, c'est quand même assez... il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est difficile à trouver. Donc, c'est intéressant de voir, justement, ils ont trouvé des traces de campements préhistoriques. Mais de là à dire que c'est un campement d'hiver... C'est plus difficile à déterminer. Alors, c'est quand même intéressant de jeter un éclairage sur cette dimension-là de l'étude. C'est ça. Ça n'a pas laissé énormément de traces. Donc, c'est pas évident de savoir comment ça se passait l'hiver à l'époque de la préhistoire ici sur notre territoire.
Mais il faut lire. C'est un dossier de 20 pages vous parlez aussi de pêche blanche, de la fameuse souffleuse inventée par les Québécois. Il y a d'autres sujets aussi que vous abordez. Je ne sais pas lesquels vous voulez mettre de l'avant. Peut-être la maison-musée d'Arthur Villeneuve?
Ah ben oui, en fait, ça, c'est bien intéressant. Ça fait quand même, c'était son anniversaire là, l'année dernière de son déplacement au musée. C'est ça, c'est quand même assez spectaculaire de dire on déplace une maison qu'on va garder dans un musée.
Oui.
Mais donc ça, on en avait entendu parler quand même. Mais là, ce texte-là nous parle vraiment des travaux de restauration qui ont été menés sur la maison. Parce que la maison en elle-même est assez spectaculaire, là, c'est une œuvre d'art, donc c'est l'artiste Arthur Villeneuve qui a transformé les murs de sa maison, les murs extérieurs, les murs intérieurs en œuvre d'art.
Et on en apprend sur lui, là, c'était un barbier qui était finalement un artiste dans l'âme.
Oui, artiste dans l'âme, exactement. Ouais. Puis à un moment donné, a décidé de se lancer dans ce projet un peu fou. Et puis là, de voir que, justement, ça a été préservé, ça a été restauré, et les différentes étapes, à quoi il a fallu faire attention. Juste le fait de transporter la maison dans le musée, s'assurer que il y ait un contrôle de l'humidité, de la température pour qu'elle soit bien conservée. Alors, c'est tous des aspects bien intéressants à découvrir.
Oui, oui. Donc, la maison qui est au musée de la pulperie, le musée La Pulperie de Chicoutimi, quand on va pouvoir recommencer à voyager, ben ça va être une belle destination à prendre. Ben, c'est tout. Ça a passé vite, Josiane, comme d'habitude. Un grand merci, puis bravo pour ce numéro continuité qu'on peut avoir en papier et puis aussi qu'on peut avoir en ligne.
Oui, bien maintenant, les kiosques sont supposés avoir le droit de recommencer à le vendre parce que là, depuis le 25 décembre, il n'y avait plus le droit de vendre. Donc, okay, normalement, ça devrait être possible.
À moins, on peut s'abonner également. Ben, Josiane, un grand merci. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de cette belle revue Continuité, Josiane Ouellet. À la prochaine!
Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.